au café, fréquence du lundi.
Ils sont toujours dans le même registre, mais cette fois-ci, au lieu de parler de la célébration de la Journée internationale de la femme, les préparatifs, nous allons changer d'angle pour parler du renforcement des lois en matière de protection de la femme, et nous allons garder les mêmes invités qui sont au studio. Il s'agit des princesses Adèle Kaïnda Maïna, députée nationale et présidente du réseau parlementaire Genre et Parité. Nous avons encore dans ce studio Dominique Bassina, conseiller au bureau genre de la MONUC, et nous avons en ligne Solange Loachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes du Soutivo, qui est en ligne avec vous. D'un coup, nous allons parler du renforcement des lois en matière de protection de la femme. En RDC, l'on note des avancées significatives dans la prise en compte des droits en faveur de la femme. En effet, c'est depuis le 18 février que la Constitution consacre un certain nombre des droits garantissant la promotion et la protection de la femme. Seulement, l'on enregistre souvent des dispositions dans certains textes légaux existants qui relèguent la femme au second plan. En outre, certains juges d'injustice persistent encore dans le domaine du travail conjugal et culturel. Que compte faire le gouvernement congolais pour pallier aux insuffisances jusque-là enregistrées? Pour en parler, nous avons dans ce studio Dako Tambikila. Dako, dites-nous dans quel sens peut-on accorder à cette journée le 8 mars dédiée à la femme?
Eh bien, Jolie, il faut d'abord dire que la journée du 8 mars trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis. Les femmes réclamaient alors les meilleures conditions de travail et les droits de vote. Plusieurs événements ont concouru d'ailleurs dans le choix de cette date. Je passe rapidement en revue quelques dates. Le 8 mars 1910, une confédération internationale des femmes socialistes de tous les pays s'est créée à Copenhague pour revendiquer le vote des femmes. Et 4 ans plus tard, à la même date, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne et l'obtiendront en 1918. En France, c'est plus de 100 000 femmes qui avaient défilé le 8 mars 1948. Elles célébraient alors le droit de vote qu'elles venaient d'obtenir 4 ans plus tôt. Alors, pour faire court, je dis, cette journée a été officialisée par les Nations Unies en 1977, invitant ainsi chaque pays à célébrer une journée pour le droit des femmes. Elle marque donc la lutte et la victoire des femmes dans la quête de l'égalité en matière de droits. Dans les démocraties occidentales, je dis, c'est chose acquise, mais en Afrique, notamment en RDC, le chemin est encore loin, je dis.
Bon, pour être bref, il faut dire que la journée de la femme, le 8 mars, marque une journée pour les femmes, une occasion pour les femmes d'obtenir leur égalité, la protection des droits, et puis beaucoup d'autres droits qui leur est dédié. Mais parce que vous évoquez le cas de la RDC, Dako, peut-on aujourd'hui affirmer que la femme congolaise est suffisamment protégée par la législation congolaise?
Eh bien, Jolie, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation de la femme congolaise a beaucoup évolué, tant sur le plan de son émancipation, que de sa considération, sa promotion et la défense de ses droits en tant qu'être humain. L'on note en effet des avancées significatives en ce qui concerne les lois sur les violences sexuelles. Par exemple, la loi sur les violences sexuelles du 20 juillet 2006 a été élaborée uniquement dans le but de réprimer les auteurs de viols en RDC. Cette loi stipule que quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d'une peine de servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende ne pouvant pas être inférieure à 100 000 francs congolais. Cependant, dire que la femme congolaise est suffisamment protégée par les textes légaux existants, c'est un peu exagéré, je dis.
Oui, mais si je vous ai bien dit, si je vous ai bien compris, la législation congolaise affiche certaines faiblesses en fait matière.
Tout à fait, je lis. Il faut savoir qu'en dehors des violences dites physiques et sexuelles tant décriées, les femmes congolaises particulièrement sont butées à plusieurs injustices. Les messieurs du genre, famille et enfants viennent d'ailleurs d'en établir tout un chapelet, et parmi les actes dénoncés, l'on retrouve notamment les violences dites juridiques, économiques, professionnelles, mais également culturelles. Pour votre gouvernement, l'on retrouve encore dans certains textes des lois congolaises des dispositions qui relèguent la femme au second plan. Nous citons les cas du principe du droit congolais qui n'accorde pas les droits des frais des logements aux femmes mariées, alors que les hommes mariés en ont les droits. Par ailleurs, dans les codes de la famille congolaise qui est en révision, je crois, le nom de l'enfant relève de la compétence du mari et non de son épouse. Il s'agit donc ici d'une violence juridique. Suivons à ce sujet les précisions de Maître Dominique de l'Avocat sans frontières.
La situation de la femme congolaise aujourd'hui a évolué sur le plan de son émancipation et de sa considération et sur le plan de la promotion et de la défense de ses droits. Mais à cela, on ne peut pas affirmer que la femme congolaise est suffisamment protégée par la législation congolaise parce qu'on retrouve encore dans certains textes des lois des dispositions qui relèvent la femme au second plan. Des dispositions qui font que la femme ne puisse pas suffisamment et totalement s'assumer. On peut parler par exemple en matière de droit du travail avec l'ancien code qui n'accordait pas à la femme le droit de bénéficier par exemple de l'indemnité de logement ou d'autres avantages lorsque son mari travaille. Ou le cas où la femme ne peut pas faire bénéficier par son employeur les soins médicaux au bénéfice, au profit de son mari par exemple. Donc il y a encore dans certaines dispositions, dans certains textes, des dispositions qui ne protègent pas suffisamment la femme.
Maître Dominique Amandou, avocat à l'ONG Avocation Frontière, qui parlait de certaines dispositions qui relèguent encore la femme au second plan dans notre pays. Nous vous rappelons un numéro de contact pour les SMS. Envoyez-nous au 081-070-2050. Si vous voulez nous appeler, faites-le au 081-893-94. Ou encore, si vous nous suivez en direct, écrivez-nous à action@radiocapu.net. Et avec vous, d'accord, on continue. Il faut quand même reconnaître que sur le plan politique et professionnel, la Constitution garantit la parité homme-femme. C'est quand même un pas de géant.
Tout à fait, je lis. Seulement, bien que la Constitution ait consacré les droits de la femme à une représentation équitable au sein des institutions nationales, la loi fixant les modalités d'application de ces droits n'est pas adoptée à ce jour. Et donc, la parité homme-femme aujourd'hui apparaît comme un VPE en RDC. Juste pour se faire une idée, je lis, l'on dénombre 42 femmes sur 500 députés, 5 femmes sur 108 sénateurs et 5 femmes sur 42 membres du gouvernement central. Alors, sur le plan professionnel, l'accès aux femmes à des postes de gestion demeure encore une lutte. Par exemple, une femme mariée au Congo ne peut pas recevoir valablement la rémunération de son travail, ni en disposer librement. Suivons justement les réactions de certaines femmes.
Nous dénonçons beaucoup de discriminations au niveau du travail là-bas. Les hommes qui sont beaucoup plus privilégiés que les femmes. Privilégiés dans quel sens? Je peux donner un cas concret. Dans le cas des soins médicaux, là où je travaille, chaque mois, on retranche l'argent pour les soins médicaux. Chaque mois, c'est le même montant, que ce soit homme ou femme, c'est le même montant. Mais nous, les femmes mariées, il n'y a que nous-mêmes qui sommes soignées, mais pas nos enfants, pas nos maris, pas nos enfants. Mais pour les hommes mariés, il y a leurs femmes et leurs enfants qui sont soignés. Je trouve ça une discrimination qui n'est pas normale. Dans les cas de promotion chez nous, il n'y a qu'une seule femme chef de division parmi tant. Je ne veux pas citer le nombre, mais il n'y a qu'une seule femme chef de division. Les chefs de bureau n'en parlons pas. Il n'y en a que 5 ou 6 femmes chefs de bureau. Ça, je n'ai jamais apprécié. Par contre, il y a aussi des femmes très compétentes, mais qui ne sont pas promues. Il n'y a que des hommes, je ne sais pas moi, sur base de quoi, je ne sais pas.
Ce que je dénonce dans le monde du travail aujourd'hui, c'est le fait que, bien qu'on apprenne l'égalité entre l'homme et la femme, mais nous constatons que dans la plupart des entreprises, les postes de commandement sont occupés pour la plupart par les hommes et les femmes viennent en second lieu. Bon, on dit que c'est à cause de la compétence, mais je ne pense pas que ce soit ainsi. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont compétentes, mais tout simplement parce qu'elle est femme, on ne lui donne pas un poste de commandement, on l'envoie à faire autre chose dans le social et autre chose et dans le ménage. Même dans les entreprises, elle est bonne pour le social.
Et voilà, on vient de suivre le point de vue des unes et des autres sur les différentes modalités d'application de ces droits qui ne sont toujours pas d'application dans ce pays. Mais qu'est-ce qui justifie cette lenteur dans l'application de ces différentes lois en faveur de la femme congolaise?
Eh bien, je lis, pour certains activistes de droits de l'homme, avec la présence des instruments juridiques protégeant la femme au Congo, il est laid de dire quand même que la volonté politique est là. Mais le problème se pose au niveau de l'application de ces lois. Par exemple, je lis, si l'on se félicite aujourd'hui de l'adoption de 2 textes de loi, celui du 20 juillet 2006, portant intégration des règles de droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles, et celui portant le code des procédures pénales pour la répression des infractions sexuelles, il s'est dénoté que ces lois ne produiront pas d'effet dissuasif sur tous les auteurs de violences sexuelles. parce qu'au regard de l'amnistie promise aux différents groupes armés dont les membres sont reconnus au terme des violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants, à l'est de la RDC bien entendu, les intéressants pourront continuer à vivre dans l'impunité jusqu'à la promulgation de la loi d'amnistie. Un autre cas frappant joli, c'est celui des Songomboyo, en Équateur justement, où les auteurs des viols collectifs d'au moins 119 femmes et filles de moins de 18 ans ont été arrêtés, jugés et condamnés par le tribunal militaire des garnisons de ces territoires. Seulement, ces militaires condamnés n'ont jamais purgé leur peine correctement parce qu'ils avaient réussi à s'évader de la prison. Et depuis lors, aucune action n'a été menée pour poursuivre cet évadé.
Oui, c'est vrai que Songomboyo a été un cas vraiment très flagrant. On sait que depuis, les militaires se sont évadés de la prison. Jusque-là, personne ne dit rien, personne ne fait rien pour retrouver ces militaires qui ont violé presque toutes les femmes de ce village. Merci Dakota Mikila. Nous allons retrouver nos invités qui sont toujours là, après Adel Kaïnda Maïla, députée nationale, présidente du réseau parlementaire Jari et Parité. Nous avons encore Dominique Batsinga, conseiller au bureau genre de la MONUC, et en ligne, nous avons Solange Rushinga, secrétaire exécutive du caucus des femmes du Sud Kivu. Avec vous, princesse Adel Kaïnda, est-ce qu'il faut quand même reconnaître que sur le plan politique, professionnel, la Constitution garantit la parité hommes et femmes?
Oui, c'est une loi sacrée, la Constitution. Effectivement, la Constitution donnait les principes. Mais le principe qui a été énoncé dans la Constitution doit être accompagné par des lois organiques ou des lois ordinaires pour la mise en application de ces principes qui est la parité. Pour moi, je me dis, je suis fière parce que aujourd'hui, nous parlons que la femme est effectivement représentée.
Une faible représentation.
Une faible.
Parce que j'ai pas vraiment deux femmes sur 500.
Oui, c'est ce que je disais. Il ne faut pas voir les effets. Nous devons toujours aller aux causes. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une solution miracle. Disons-nous que nous, les femmes, soyons fiers de notre être, mais que nous puissions conjuguer tous les efforts pour faire encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre pratiquement les escaliers. Aujourd'hui, la femme n'a pas tous les atouts pour prendre l'ascenseur. De ce que je venais de vous dire, si vous êtes en train de donner ces statistiques, c'est parce qu'il y a eu les élections de 2006. Qui ces élections? La femme. Je me dis, c'est vrai qu'elle a été confrontée d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai un principe de ne pas toujours culpabiliser l'une des parties. Moi-même, je dois aussi être une partie prenante. J'ai fait l'introspection. Je me dis, comme on a toujours dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Alors, je me dis dans ça, la femme était présentée en indépendante. La femme n'a pas eu la facilité d'être alignée sur la liste dans les partis politiques. La femme n'a pas eu facilité financière que l'homme. C'est ce qu'on est en train de décrire. Et de là où je me dis que l'analphabétisme de la femme nous a préjudicé, parce que c'était le grand électorat de la femme. La femme s'est dit, mais pourquoi peut-être élire une femme? Autant de questions que cette femme s'est posées, aujourd'hui nous sommes en train d'orienter nos différentes sessions de formation pour expliquer à cette femme. Non seulement à la femme, mais à l'homme. Moi, pourquoi je me dis que je suis fière? Je sais que j'ai été élue dans un monde rural qui, depuis l'organisation politique de ce pays, on n'avait jamais eu une responsable femme. J'étais la première femme élue et j'étais l'unique sur la liste, du moins en compétition avec 13 hommes. Moi, j'étais élue avec une majorité écrasante. Moi, je me dis, les gens de chez moi ont compris les rôles que la femme doit faire.
Vous devez à votre tour encourager les autres.
J'ai encouragé parce que moi, par le travail, c'est-à-dire la femme, à un certain moment, notre base n'a pas besoin de discours, notre base a besoin de ce que je peux dire de la révolution verte.
Oui,
c'est-à-dire que nous devons parler de nos actes et de nos actions sur le terrain pour que nous soyons aussi appréciés. Mais si nous allons seulement parler à un certain moment sans être accompagnés des actions, c'est difficile. Mais je vais revenir à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du travail.
effectivement, ces injustices, nous sommes en train de les dénoncer comme je venais de le souligner.
D'accord, peut-être oui. Encore faut-il que la politique du gouvernement soit orientée vers cela. Mais on a comme l'impression que tous les textes légaux existants, c'est vrai, ne sont pas d'application.
Voilà, ils ne sont pas d'application. Pourquoi ? C'est pourquoi nous parlons du genre. Parce qu'à l'hémicycle, là où nous sommes, où nous devons adopter les lois, ce ne sont pas les femmes qui doivent influencer de ça. C'est d'abord les hommes députés qui doivent comprendre le bien fondé de ces lois pour que ne fût-ce que qu'on tienne compte, comme je l'ai dit, de l'action affirmative en faveur de la femme qui n'est pas une discrimination positive comme on peut le dire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une lenteur, c'est un manque de volonté de leur part? Comment on peut justifier ça?
C'est un processus. Nous sommes dans un processus. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'un miracle aujourd'hui. C'est un processus. Mais pour ce qui est, par exemple, du code du travail, le code du travail avait relevé un défi en 10 ans. La femme ne peut pas solliciter une autorisation maritale. Mais cette disposition a trouvé des embûches dans le code de la famille. Parce que le code de la famille devait aussi être révisé aux attentes de toutes les préoccupations qui ont été relevées.
Donc, l'idéal aurait été d'abord de réviser
le code de la famille avant de... Parce que c'est le code de la famille qui doit avoir des effets d'entraînement sur les autres lois. Mais comme le code de la famille aujourd'hui raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes toujours victimes de ces injustices.
Parce que quand nous regardons aussi le chapelet des violences faites à la femme, sur le plan professionnel par exemple, l'accès aux femmes à des postes de gestion demeure encore une lutte aussi.
Je veux vous dire, madame, c'est comme une dame a soulevé une question. Quel est l'indicateur qui est là pour évaluer la compétence d'un homme ou d'une femme? Comme ils disent, on n'a pas. C'est quel thermomètre? C'est quel thermomètre qu'on donne pour relever cette température de compétence? Ou est-ce qu'on n'a pas vu des fois quand il y a des nominations, ou des fois on prend un homme qui simplement peut-être n'est pas de cette entreprise et nommée à des postes de commandement. Mais nous nous disons pourquoi pas la femme. La femme est intelligente. Aujourd'hui, c'était argumentaire de dire que la femme ne remplit pas toutes les conditions. Effectivement, cet argument doit être anéanti.
Oui, madame, il y a une réaction de Didier et Marie Mangassa, qui nous appelle depuis le Canada, qui aborde peut-être dans le même sens. Il dit, au fait, le problème de violence faite aux femmes est planétaire. Ce problème n'est pas spécifique à la RDC, mais la solution passe par l'éducation, vraiment une vraie émancipation de la femme. Quand on voit dans notre pays, les femmes dépendent à 100% des hommes. Donc, c'est lié à la situation financière de la femme. La femme, d'abord, est dépourvue de moyens, la femme congolaise, elle est dépourvue de moyens. Comme qui dirait, c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, cette femme n'ayant pas de moyens, ne peut rien faire. Mais nous avons quelqu'un en ligne de
Kalamba.
Kalamba, il est à Colosi. Kalamba, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous voulez réagir?
Je voulais intervenir.
Oui.
Pour faire remarquer que, comme c'est la journée de la femme demain,
non, c'est le
dimanche.
Oui, allez-y.
Ok, je disais, mais si l'Espagne de son temps va arriver à niveau des Corrigés, c'est pas comment les femmes de Corrigés
pourront péter.
Pourront péter les
femmes de Corrigés.
Ben voilà, alors, nous en profitons, monsieur Kalamba, parce que vous êtes à Corrigés. Quelle est la situation de la femme à Corrigés? Au lieu d'attendre l'Espagne d'abord, mais donnez-nous quand même la situation de la femme.
Est
considérée à Corrigés. Est-ce qu'aujourd'hui, les cas de violences sexuelles sont enregistrés, sont en variation à la baisse ou en hausse?
Oui, justement, par-ci par-là, d'ailleurs, au cours de la semaine, on a enregistré des cas de viol. Il y a des jeunes filles qui ont été violées par des jeunes garçons encore. Alors, c'est souvent, les viols est pratiqué.
Voilà, M. Kalamba, on continue à attendre le PAN qui viendra sûrement la semaine prochaine. Merci d'être intervenu sur le réseau de Radio Capi et à très bientôt. Alors, Monsieur Dominique, vous voulez réagir par rapport à ces réactions. Aujourd'hui, comme on l'a dit, la loi cadre qui oriente parfois certaines questions, notamment le code de la famille, où reposent certaines lois, qui n'est pas encore révisée. L'idéal aurait été de commencer par là, mais bon, je ne sais pas comment les décideurs ont pensé normalement proposer d'autres textes pour venir peut-être appuyer le code de la famille, mais jusqu'à là ça ne marche pas. Mais quelle est l'attitude du genre de la MONUC? Vous pensez comment par rapport à ça?
L'accompagnement que nous apportons aux ONG féminines a permis d'être informé qu'il y a d'abord une politique nationale du genre qui existe, et dans le cadre de cette politique qui est en voie d'élaboration, toutes ces questions seront prises en compte. Il y a deuxièmement un plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 qui est en voie d'élaboration. Ça a permis déjà d'installer il y a deux mois un comité national 1325 et aujourd'hui 1820. La 1820 est beaucoup plus focalisée sur la lutte contre les violences sexuelles. Et ce comité va avoir un rôle pilote dans la promotion de toutes ces réformes. Ce que j'ai pu observer, c'est que sous le mandat de la ministre Philomène Omadou, un projet de loi sur la mise en œuvre de la parité en vertu de l'article 14 de la Constitution in fine a été initié. Ce projet de loi est dans les circuits. Peut-être faudrait-il que l'honorable député du réseau parité puisse réactualiser ça et remettre à l'ordre du jour avec le ministère du genre actuel. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, il y a toute l'harmonisation, toute la révision des lois considérées discriminatoires qui ont été identifiées par les ONG féminines. C'est tout un arsenal qu'elles ont mis sous forme de tableau, qui a été repris dans un document appelé « Stratégie d'intégration du genre dans les politiques et programmes de la RDC », qui avait été élaboré par le ministère de la Condition féminine en 2004, qui est toujours d'actualité, et qui appelle une harmonisation de ces dispositions nationales avec
comment la situation de la femme congolaise est loin de s'améliorer.
Bon, moi je suis de nature optimiste. Je sais que la femme, sa situation s'améliore parce que avec les préjugés culturels auxquels j'échappe pas, je suis le produit d'une société. Oui. J'ai vu que la femme congolaise est aujourd'hui debout. La femme congolaise analyse, elle est active, elle n'est pas simplement que victime. Il ne faut pas mettre l'accent sur ces aspects de victimisation, mais il faut essayer de voir comment elle agit pour changer la donne. C'est ce qui est plus important. Et dans ce domaine, elles interviennent beaucoup, et c'est ce que le bureau Jean essaie, par les renforcements de capacités, de faire. Aujourd'hui, nous savons par exemple que l'article 162 de la Constitution de la Troisième République permet à toute personne d'initier un recours pour l'inconstitutionnalité de toute loi. Il faut l'apprendre aux femmes. Ce n'est pas un problème de personne que d'introduire un recours en justice. Vous avez des possibilités constitutionnelles ouvertes, il faut les utiliser. Et ce type de capacitation va petit à petit, lorsqu'elles vont se mettre à utiliser ça, ça va amener à des changements. Parce que lorsque la Cour suprême, dans sa chambre constitutionnelle, ou peut-être la future Cour constitutionnelle, observera, tranchera que telle disposition est contraire à la Constitution, et ça va nécessiter soit pour les magistrats qu'on écarte son application, soit même pour le législateur d'intervenir et de réadapter.
Pour l'année 2009, vos actions seront orientées vers combien d'axes principaux ou prioritaires?
Bon, l'année pour la MONUC, ça va jusqu'en en juin 2009, ce qui nous laisse 4 mois. Et sur ces 4 mois, nous avons quand même plusieurs priorités qui concernent toujours de participer au processus d'élaboration du plan d'action national de la 1325, de renforcer pour l'Est l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Vous savez que bon, dans les deux Sud-Kivu, il y a eu des initiatives féminines qu'on doit saluer. Mm-hmm. Des femmes ont joué leur rôle naturel de médiation dans ce conflit.
Il y a quelqu'un qui est en ligne, il y a Mutombo qui nous appelle de Lubumbashi. Monsieur Mutombo, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est votre réaction, quelle est votre contribution à cette réflexion?
En réaction, je voulais juste intervenir pour vous dire que...
Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? Parce que là, ça fait un mauvais retour à l'antenne.
Ok, je me suis éloigné. Je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons remarqué, peut-être avec Anderson, que la femme est en train de dérouter. Puisque si nous voulons bien voir, selon la volonté de Dieu, la femme, la place qu'elle occupe aujourd'hui, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Puisque aujourd'hui, on nous parle de la parité, on nous parle de l'émancipation. Tout ça, ce n'est pas biblique. Moi, je vais dire tout simplement à la femme de regagner sa place originelle selon le plan.
Quelle est sa place originelle?
La place, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi qu'il a mis la femme à son côté pour qu'elle soit son aide.
Tout à fait.
La femme est là juste pour féconder l'homme dans tout ce que
l'homme. Donc, si je comprends bien, M. Moutombo.
C'est ça sa place.
Oui, M. Moutombo, si je comprends bien, l'évolution que nous observons dans les mondes n'est pas des dieux.
Cette évolution, ça, ce n'est pas biblique.
Non, toute évolution n'est pas biblique.
Nous devons rester.
Alors,
une interprétation erronée de la Bible.
Ouais.
La Bible, allez-y jusqu'au bout. Je ne suis pas théologien, mais je sais que la Bible dit à la femme, si tu veux, sois soumise à ton homme, mais toi, homme, aime la femme comme toi-même. C'est une condition pour que cette femme soit soumise à l'homme.
Ouais.
Vous devez d'abord montrer, et à mon avis, si vous aimez cette femme comme vous-même, vous ne la maltraiterez pas. Cela dit, nous devons tout de suite cadrer le débat. Parce que la question du genre et des droits des femmes ne se situe pas au niveau de la théologie. Et quoi qu'on admette que ça puisse constituer un obstacle, nous nous limitons au strict niveau des conventions et des droits humains. Lorsqu'un État ratifie une convention internationale, comme c'est le cas pour le gouvernement congolais qui a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes depuis 1985, alors ça fait partie des lois nationales. Et ça suffit en soi pour que ces droits soient mis en œuvre.
Suivons d'abord le sens de la formation et puis on va vous accorder juste deux petits derniers mots. Le 8 mars, aujourd'hui, donc nous sommes le 6 mars 2009 et la journée internationale de la femme tombe un dimanche, c'est pour laquelle, dans Okapi Action, nous avons anticipativement traité ce sujet. Nous concluons avec nos invités. On commence par Solange Luasiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes du site Kivu. Madame Solange, vous êtes encore en ligne avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Alors, pour conclure, est-ce que la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles est assurée en République démocratique du Congo, selon vous?
Non.
Sur le plan juridique, judiciaire, sanitaire?
Et surtout ici au niveau de l'Est et de la RDC, non. Même le pourcentage, si on essaie de voir quel est le pourcentage, c'est insignifiant parce que les femmes victimes de violences sexuelles sont très nombreuses au sud qui vous et au nord qui vous. Donc, la prise en charge n'est pas garantie.
Ben alors, quelles sont les raisons que vous avancez? Et pourquoi cette prise en charge n'est pas assurée?
Au contraire, ça c'est une question. Je pense qu'à mon niveau, je ne pourrais pas trouver. Il ressort que la question des violences sexuelles, nous commençons à voir que c'est une question que les gens commencent à banaliser. Parce qu'au fait, si on tient compte du rôle de la femme, le rôle que la femme doit jouer dans la société tenir compte du fait que ces violences sexuelles déshumanisent la femme. Donc, ça c'est une actrice, la femme violée, qui ne pourra plus répondre positivement au travail de développement. Et je pense que les autorités devraient prendre cette question avec avec précision ou avec poids pour essayer quand même de remettre la femme dans ses droits et afin qu'elle puisse contribuer positivement au développement de notre pays. Donc les victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC ne sont pas prises en charge.
Oui, Madame Solange, que faites-vous? Vous êtes une ONG. Est-ce qu'ils arrivent de faire des plaidoyers pour c'est quand même à sortir la femme de cette situation?
Oui, alors vous savez que le conflit des femmes, en tant que cadre de concertation pour la promotion du leadership des femmes, nous avons comme stratégie d'action le plaidoyer. Et comme vous savez, le plaidoyer ne fait pas juste monsieur le journaliste. Donc vous pouvez mener des plaidoyers aujourd'hui, demain, sur une longue période, et que l'impact, vous n'allez que devoir l'impact après une longue période. Et c'est pour cela que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui comprennent que quand même le Congo ne peut pas se développer avec les hommes seuls devraient conjuguer les efforts ensemble pour trouver une solution à ces problèmes de violence sexuelle contre les femmes.
Solange Loisiga, nous rappelons que vous êtes secrétaire exécutif du caucus des femmes du Sud Kivu. En tout cas, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur les ondes de Radio Capi et intervenir pour parler de cette journée internationale de la femme. Nous retenons que vous avez dénoncé la folklorisation, entre guillemets, de cette journée internationale de la femme. Je crois que vos propositions ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds, hein, et je crois que ça produira également des effets escomptés. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup pour m'avoir invité.
Voilà, il y a un auditeur qui est en ligne, Grâce, qui nous appelle de Kinshasa. Avant de lui accorder aussi la dernière parole, dernier mot à nos deux invités de Kinshasa qui sont ici sur place. Grâce, vous êtes en ligne, bonjour, vous nous appelez de Kinshasa.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre préoccupation?
En fait, il y a un papa qui avait appelé, il m'a dit que ce que la femme est en train de faire n'est pas bien, il doit retrouver en fait, sa place. Moi, je pense que ça, c'est vraiment trop religieux et scrupuleux. C'est pas bien parce que le monde évolue et la femme et l'homme sont des créatures de Dieu. Et le monde évolue, d'ailleurs, c'est Dieu qui permet cette évolution. Donc, il n'a pas raison de dire.
Merci.
J'aimerais poser une question, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Est-ce que notre constitution permet aux femmes de poser une candidature présidentielle?
Voilà, une bonne question, Grâce. Merci. Alors, on attend la parole à la députée, Madame députée, Princesse, qui est avec nous dans ce studio. Princesse Adèle Kayinda Maïna, députée nationale, présidente du réseau parlementaire Genre et Parité. Qu'est-ce que vous répondez à Grâce? La constitution autorise à une femme de postuler à la présidentielle?
J'ai dit merci parce que 2006,
ça ne fait pas encore longtemps. Aucune femme. La femme était là, oui.
Oui, nous avons eu 4 femmes candidates aux élections présidentielles. Et effectivement, la femme a pris ses responsabilités à main pour dire, effectivement, le principe osé. Donc, nous devons aussi y aller. Avant de pouvoir répondre à arriver, je ne sais pas, monsieur, je pense Grâce. Que c'est monsieur, non, de monsieur de Lubumbashi.
De Lubumbashi, monsieur Mutombo.
Monsieur Mutombo, je me dis que le monsieur Mutombo doit être quand même fier pour se dire que les élections de 2006 au niveau législatif, que c'est les 4 qui a raflé plus de nombre de sièges en ce qui concerne la femme. Donc, il doit être fier. Ce qu'il a dit, ce n'est pas vraiment au chapitre aujourd'hui. Je peux dire c'est les dogmes, parce que à l'époque, on s'est dit pourquoi non, c'est comme ça. Dieu, on ne peut pas aujourd'hui lui mettre dans une discussion pareille, parce que Dieu ne veut pas l'évolution de l'un.
Mais parce que même à l'église catholique, autrefois, on ne devait pas avoir des acolytes femmes, mais aujourd'hui, le Vatican a autorisé, il y a même, au niveau des chrétiens,
donc nous voyons que c'est comme ça. Il ne faudrait pas que quand une personne est à court d'arguments, qu'il puisse se rebuffer sur Dieu, parce qu'on dit que même la Bible, il faut pas lire en amont, il faut aller en amont et en aval pour donner une lecture complète de la Bible. Alors, je me dis aussi que pour cette journée, effectivement, je salue l'initiative, je salue tous les animateurs de notre pays, en tête le Raïs Joseph Kabila, pour la volonté politique qu'il a eu de pouvoir promouvoir les lois qui doivent aller en compétition de l'homme et de la femme. Et je me dis aussi que les femmes seules ne réussiront jamais. Ça, je suis fière de le dire. C'est pas dire que je ne remets encore, c'est pourquoi nous parlons du genre. Et le sujet, c'est hommes et femmes. Nous devons être unis pour la même cause. C'est-à-dire, je peux aller en compétition, j'ai tous les atouts, j'ai toutes mes capacités. Je me dis que ce n'est pas dit que quand l'homme n'est pas là, je ne peux pas réussir. Mais nous avons, par exemple, quand il y a d'autres actions de lobbying, nous-mêmes, femmes, nous ne pouvons pas réussir. C'est-à-dire, nous devons aller en conjugaison aussi avec les efforts de l'homme. Raison pour laquelle je me dis à ça, que l'homme comprenne que la femme n'est pas son ennemi. La femme, c'est un adversaire politique. Un adversaire politique, on accepte la contradiction. Un adversaire politique, on accepte aussi d'aller dans la même direction. Et aujourd'hui, comme c'est le sujet de violence faite à la femme, je me dis, ça nous devons faire ensemble avec les hommes. Nous devons faire ensemble avec les hommes parce que la 13-25, la femme elle-même ne sera pas la 18-20 comme l'a dit Dominique. Et aujourd'hui, même à cette marche, parce que le dimanche sera la marche, je me dis que les hommes viennent. Ce n'est pas une marche exclusive seulement de la femme. Que les hommes viennent et que si les petites filles doivent être là, que les petits garçons aussi soient là. C'est dans cette complémentarité que nous devons faire ça. Mais je me dis que la femme doit se prendre en charge. En charge, c'est-à-dire que nous devons briser l'ignorance. Il ne faudrait pas que l'ignorance puisse nous retenir à toute initiative louable que la société peut bénéficier. C'est-à-dire, j'apprécie et je salue le travail que les femmes font dans les associations, dans les ONG, dans la société civile, mais je me dis, il faut approfondir plus la question de pouvoir bien nous imprégner de nos lois et de pouvoir bien les sensibiliser pour que nous puissions en approprier. Il ne faut pas dire que ces lois, c'est seulement pour les femmes parlementaires, les femmes du gouvernement, les femmes d'entreprise à ce moment-là. Ça sera une action unilatérale. Je me dis, chaque femme et chaque homme puisse s'approprier de cet arsenal juridique.
Merci madame. Et puis nous passons à Dominique Bassiga, conseiller au bureau du genre à la MONUC. Quel est votre dernier mot?
Je veux exprimer mon admiration pour toutes ces femmes congolaises qui sont debout aujourd'hui.
Merci.
Je suis vraiment, je sais que nous n'avons pas travaillé pour rien. Il y a des femmes ici très compétentes, à qui on n'a rien à apprendre, qui comprennent tout de suite les enjeux et les implications de n'importe quel côté. Ces femmes-là, je les exprime mon admiration et leur demande d'encadrer les autres. Sans oublier les hommes. Il y a des hommes, franchement, épris d'équité, qui accompagnent ces femmes. Et nous savons que la loi sur la, du moins, les 30% durant la transition dans les institutions d'appui à la démocratie, on doit ça à l'attitude positive d'un homme, l'abbé Malou Malou, qu'il faut saluer ici. Et à l'Assemblée, on a eu d'autres hommes qui ont accepté de jouer le jeu de l'ouverture, de la parité, et qui accompagnent le réseau genre et parité. Alors, le rôle des hommes ici est important. Important parce que c'est aujourd'hui eux qui sont en position de domination. Et l'Assemblée générale des Nations Unies demande, à travers une résolution, que ce rôle des garçons et des hommes soit ciblé. Si l'on veut changer les choses aujourd'hui, la plupart des auteurs des violences, c'est des hommes. Il faut les cibler et les sensibiliser.
Dominique Bassinga, nous rappelons encore que vous êtes conseiller au bureau du genre à la MONUC. Voilà, donc juste un mot, en tout cas un mot, pas deux.
Merci à cette journée aussi. Je salue la compétence avec laquelle que font montre de ses mérites de femmes dans le monde journalistique.
Voilà,
ça a été le plus beau. Donc, à toutes les femmes journalistes,
merci beaucoup. Bonne fête à la princesse. Bonne fête également à Solange Loisiga qui est intervenu à partir de Bukavu. Et nous disons merci à Dominique Bassinga, merci également à la princesse Kalinda, députée nationale, d'avoir été de notre dans ce studio. Et on se retrouve très prochainement. Si pas, c'est Inch'Allah, comme on dit, le 8 mars prochain.
Merci. De la polygamie.